Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Le Guédois. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en une minute ?
Je suis dans le développement logiciel depuis quelques années, si ce n'est quelques décennies, et j'accompagne à la fois des entreprises qui veulent être aidés sur cet aspect-là. Et en même temps, je fais aussi de la conception et de la réalisation de logiciels sur mesure.
Et ce qui m'a donné envie de t'inviter, c'est que je crois que tu as une conf carrément sur cette thématique qui est comment planter son projet sans se faire choper. Mmh. Alors je me disais, si tu pouvais donner quelques conseils aux auditeurs sur comment planter bien comme il faut un projet sans se faire choper, ça pouvait être quand même vachement sympa.
Alors effectivement, c'est un titre de conférence un peu provocant, qui est en fait un REX, un retour d'expérience sur un projet auquel j'ai participé, et j'avais fait ce constat qu'en fait, il y avait beaucoup, notamment de très grandes entreprises, qui avaient à peu près toujours les mêmes travers de fonctionnement. Et dans le même temps, il y avait vraiment toute une démarche de mise en œuvre, justement pour ne pas faire se choper. Et d'où ce titre un peu provocant de comment planter son projet sans se faire choper. Alors, l'idée, c'était déjà de donner des recettes, finalement, de tout ce qu'il ne faut pas faire, ou tout ce qui fait planter, et puis ensuite donner les éléments de langage pour malgré tout le faire passer. Alors, à titre d'exemple, il y en a un qui est relativement simple et qui me tient beaucoup à cœur, c'est démultiplier les intermédiaires entre les concepteurs d'un produit et les utilisateurs d'un produit. Donc, dans le monde du développement logiciel, démultiplier les intermédiaires entre les utilisateurs et les développeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour planter un projet qui fonctionne de manière merveilleuse et puis j'allais dire systématique, parce qu'à chaque fois qu'on ajoute un intermédiaire, on va rajouter du délai, on va rajouter de l'incompréhension, on va ajouter de la déperdition d'informations. Donc en fait, ça va planter. Et d'un autre côté, c'est extrêmement simple à faire passer dans une organisation, parce qu'il suffit de dire on va ajouter une personne, ça va aller plus vite. C'est en fait cette croyance que plus il y aura de monde sur un projet, plus ça va fonctionner vite.
Ah, c'est bon, ce que tu dis, c'est bon, c'est un vrai argument, tu vois, je veux dire, dans la tête des gens, plus tu mets de monde,
ouais,
plus tu vas vite, quoi.
C'est ça, plus tu vas vite. Et c'est pour ça que cette conférence s'appelle « Comment planter son projet sans se faire choper », parce que dans plein d'organisations, les gens sont vraiment de très très bonne volonté. Hein. C'est-à-dire, le projet ne va pas assez vite, on va ajouter une personne, et cette personne, on l'ajoute où ? Ben, on l'ajoute entre les utilisateurs et les développeurs. On va dire entre les utilisateurs d'un produit et les concepteurs du produit. Et forcément, ça mène à des catastrophes. Donc ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres de gens qui sont complètement bien intentionnés. Et puis parfois, il y a des situations qui sont quand même délicates. Sur certains projets, quand on intervient, on va interviewer un peu tout le monde, on interviewe les développeurs et on se rend compte qu'ils n'ont jamais rencontré un utilisateur final. On se rend compte qu'ils ne connaissent pas le nombre d'intermédiaires entre eux et les utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils parlent à un tel, qu'ils parlent à un tel, qu'ils parlent à un tel, qu'ils parlent à un tel. Voilà, cette chaîne-là de communication n'est pas identifiée. Et donc forcément, ça fait très très mal sur les projets, ça.
En fait, quand je t'écoute, ça me fait penser à plein de choses. Il y a évidemment le truc assez classique de rajouter des niveaux hiérarchiques, quelque part, entre le chef de projet, le chef de projet du chef de projet, le chef du projet client. Initialement, je pensais à ça, mais je réalise que d'un coup, il y a plein d'autres intermédiaires. Moi, si on reste dans le cadre du logiciel, tu vois, j'ai le cas précis d'un client en tête. Les développeurs ne connaissent en fait que deux externes, la QA et le marketing, en fait. Hein? Et effectivement, ils n'ont jamais parlé à un utilisateur ou même à un représentant des utilisateurs. Ouais. Ils parlent au market, qui va... des fois, je me demande si l'utilisateur fait partie de leur considération. Ouais. Mais parce qu'eux aussi, ils ont des obligations à tenir, tu vois. Ils ont une roadmap pour faire plaisir peut-être plus à leur chef qu'à leurs utilisateurs.
Oui, c'est des organisations où l'utilisateur a été oublié. La finalité a été oubliée. C'est-à-dire c'est des organisations qui se sont recroquevillées sur elles-mêmes, recroquevillées sur leurs problématiques internes de fonctionnement, sur les difficultés à communiquer entre les personnes, et qui, à un moment, oublient un peu la finalité. Et je suis toujours surpris, stupéfait, quand j'écoute des gens particulièrement intelligents, brillants, des chercheurs, des médecins, voilà, des gens qui ont vraiment atteint un haut niveau, leur capacité à remettre l'église au centre du village, leur capacité à reprendre du recul, à relativiser tous les enjeux, et en fait à être capable de définir c'est quoi la mission première, c'est quoi l'enjeu premier. Et effectivement, l'enjeu premier, c'est bien entendu de satisfaire les utilisateurs. Quand on oublie ça, bah, y a toute une complexité qui peut se mettre en place. Et comme il y a une confusion très importante dans notre culture entre finalement le travail, c'est-à-dire ce qu'on fait là où on fournit un effort, et le travail utile, ou si j'étais un peu plus taquin, entre le travail et le gaspillage, comme il y a une très grande confusion entre les deux, il y a un moment où on estime que si on est sur son temps de travail, sur son lieu de travail, avec son matériel de travail, et que je suis en train de parler avec mes collègues ou avec mes clients, que je fais une réunion avec un compte-rendu de réunion, tout ça, ça a le goût du travail, ça a la saveur du travail, ça a l'apparence du travail, sauf que si c'est pas orienté pour les utilisateurs finaux, c'est pas du travail, c'est du gaspillage. Et vraiment, la différence est ténue, est extrêmement ténue. Et du coup, c'est parfois difficile à percevoir. Et du coup, effectivement, les personnes se perdent un peu et on oublie l'enjeu premier qui est de satisfaire des utilisateurs.
Et imaginons qu'un auditeur se reconnaisse trop bien dans cette description que tu fais de l'entreprise, qui a l'air un peu malade quand même. Tu lui donnerais quoi comme conseil, en dehors de te passer un coup de fil et de t'appeler, mais s'il n'en a pas les moyens, qu'est-ce qu'il peut faire pour fixer localement la situation?
Moi, je commence souvent par faire un petit dessin, parce que quand on arrive sur des contextes qu'on ne connaît pas, c'est utile. Et donc, je commence à dessiner un petit bonhomme qui est le développeur, et je dessine de l'autre côté un petit bonhomme qui est l'utilisateur final. Et j'essaye d'identifier tous les intermédiaires, et à chaque fois, je dessine un petit bonhomme, et puis je regarde ce qu'il en est de la chaîne de communication. Alors, rien que de créer cette notion intellectuelle au sein d'une organisation, ça a de la valeur. C'est-à-dire, bah déjà, parfois, elle n'est pas identifiée, cette chaîne de communication. Parfois, elle est multiple. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, en fait, l'information vient un peu de partout. Ce qui est assez drôle, là, parce qu'en termes de priorisation, ça, c'est tout de suite, ça devient très compliqué. Et donc, juste dessiner ça, et après, de se dire, comment est-ce que je peux faire pour raccourcir cette chaîne-là. Et quand on dit raccourcir cette chaîne-là, c'est pas forcément supprimer des rôles et encore moins supprimer des personnes. Déjà, on peut laisser les personnes dans leur rôle et dire, par exemple, bien, les développeurs vont avoir le droit d'assister à une réunion auquel ils n'avaient pas le droit d'assister avant, parce que ça leur permettra d'aller plus en contact avec les utilisateurs. Ça, c'est le premier point. Et si à un moment il y a une organisation qui a le courage de supprimer certains rôles, ça ne veut pas dire supprimer les personnes, parce que ces personnes, c'est a priori des professionnels qui ont de l'expérience, qui ont de la valeur. Et donc c'est juste une pure question d'organisation, quoi. Voilà. Et puis après, il y a encore un axe qu'il est possible d'explorer, c'est de se dire au quotidien, par exemple, les développeurs vont parler avec le marketing qui va parler avec les utilisateurs finaux. Mais par exemple, une fois par mois, les développeurs vont rencontrer les utilisateurs finaux avec le marketing. C'est-à-dire que plutôt que de dire c'est binaire, c'est-à-dire on passe toujours par le marketing ou jamais par le marketing, eh bien on peut dire au quotidien on passe par le marketing, mais une fois par mois on va créer ce lien directement. Ce qui va énormément faciliter le dialogue et ce qui va aussi développer d'autres qualités. comme par exemple l'empathie et la compréhension mutuelle des enjeux. C'est-à-dire que quand il y a des développeurs qui rencontrent des utilisateurs, ils reviennent avec une source de motivation qui est absolument tout autre que quand ils doivent répondre à un cahier des charges. Puisque là, ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils travaillent, ils comprennent...
Oui, c'est clair, ça donne le sens. Pour moi, les utilisateurs font... Le retour des utilisateurs fait partie intégrante du salaire du développeur, en fait.
Oui, c'est ça. Il y a une vraie source de motivation. Mmh. Après, c'est plus ou moins perçu. C'est pareil quand l'organisation a complètement quitté la logique des utilisateurs finaux. On en arrive à des fonctionnements particuliers. Moi, je sais qu'une fois, on m'a dit, faire rencontrer les développeurs avec les utilisateurs finaux, c'est développer le syndrome de Stockholm, quoi. C'est-à-dire que dans la tête des personnes, les utilisateurs étaient des preneurs d'otages et les développeurs étaient des otages et qu'il fallait surtout pas qu'ils se rencontrent et qu'il fallait mettre moultes intermédiaires.
Ouais, ça en dit long sur la culture de la boîte, ça. C'est un peu flippant quand même. Mais je vois que la timebox arrive à sa fin, je suis désolé, c'est le jeu des 10 minutes.
Ah ouais.
Écoute Frédéric, merci pour tout ça, ce retour, c'était super intéressant. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où ?
Il y a un site, leguédois.fr, Twitter, LinkedIn, voilà.
Ok, on mettra tout ça dans la description.
Super.
Merci Frédéric.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je t'invite à venir sur compagnon.artisandeveloppeur.fr. Tu y retrouveras l'intégralité des épisodes du podcast, mais aussi des épisodes YouTube. Et tu pourras même t'inscrire pour recevoir tout ça dans ta boîte mail directement. Je te remercie, je te dis à bientôt.